Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Amy, Thomas et Laurent enquêtent tous les mercredis soirs en direct de 20h à 22h. Enquête spirituelle.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Enquête spirituelle ce soir avec le soleil, malgré que c'est le soir, n'est-ce pas Thomas ?
Le soleil, du moment qu'il soit dans nos cœurs, c'est le principal. Ah, c'est... Parfois il peut partir,
mais c'est voilà.
Comme ça, ça arrive.
En tout cas, il est là, il sera là pour le week-end, pour ceux qui nous suivent en direct.
Je suis pas convaincu de ça, mais ça c'est autre chose.
Pour une fois, la météo ne va pas se tromper. Allez.
Bon, allez, après tout, c'est peut-être toi le voyant de secours ce soir.
Ouais.
Allez. Bonsoir à tout le monde, un petit coucou à celles et ceux qui nous écoutent un petit peu partout dans le Nord. Je sais qu'on nous écoute du côté de Salomé, du côté de Lille, à Orchy, on nous écoute partout, on nous écoute dans Normandie, dans un coin.
La
titouille qui nous écoute.
Ça va Amy, t'as pas dit bonjour?
Oui, bonjour.
Mais t'es là.
Oui, je suis toujours là.
Ok, c'est vrai qu'il fait pas trop moche aujourd'hui, alors on va en profiter. Alors c'est quoi le programme ce soir? Je suis au courant de rien, moi on me dit rien.
Alors ce soir, on va avoir Marion dans quelques instants avec la rubrique coaching d'un héros. Ensuite, on aura notre invité depuis la Suisse qui s'appelle
Stéphane Cardino.
Stéphane Cardino qui est spécialiste de la géobiologie et de la bioénergie. Ce sera le thème de ce soir. Donc, si vous avez des questions, rendez-vous déjà sur le chat, je suppose, Amy.
Oui, alors sur notre site www.enquête-spirituelle.com, vous cliquez sur la petite webcam et vous tombez directement sur la webcam de la radio. Max FM et le chat en direct, sinon sur le site de la radio maxfm.be et vous cliquez sur la webcam pour nous retrouver en visio. Voilà,
comme ça vous avez tout pour nous joindre. On se retrouve dans quelques petites secondes avec Marion pour la rubrique coaching d'un héros. À tout de suite.
Enquête spirituelle. Le podcast, rendez-vous sur notre site www.enquête-spirituelle.com.
Et on est parti pour cette première partie de cette émission Enquête spirituelle avec Marion. Comment ça va Marion ?
Salut Laurent, ça va très bien et toi ? Bonjour toute l'équipe !
Salut Marion !
Salut !
Il y a tout le monde qui est là au complet ce soir.
Alors, ouais, dis donc.
On est parti
chouette.
Pour ta rubrique coaching d'un héros.
Coaching d'un héros. Coaching d'un héros, la rubrique où le héros, c'est toi, présenté par Marion.
Voilà Marion, c'est à toi Superman, non Supergirl pardon.
Super. Bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans Coaching d'un héros 13, la rubrique qui t'aide à développer ton potentiel de héros créateur de la paix. Alors ce soir c'est du lourd. Hein. Ce soir j'aimerais vous parler d'antisexisme, de féminisme, de ce qu'on appelle ici un peu le féminin sacré. Alors comme je vous disais à travers mes précédentes émissions, notre monde il est extrêmement patriarcal. Donc les valeurs masculines elles sont dominantes dans à peu près toutes les sociétés de façon plus ou moins marquée. Les valeurs masculines qui sont liées à l'hémisphère gauche du cerveau, c'est la force, la performance, l'analyse, l'individualisme, l'action. Les valeurs féminines qui sont liées à l'hémisphère droit du cerveau, ce sont les émotions, l'empathie, le partage, la créativité. Le fait est que chaque être humain contient les deux polarités masculines et féminines et a besoin des deux pour s'épanouir pleinement. La biologie corporelle et l'éducation font que l'une ou l'autre est plus présente selon le sexe. L'union entre les genres, outre la reproduction, ça permet l'apprivoisement en soi de la valeur de l'autre sexe. C'est-à-dire que l'homme et la femme, ils se complètent. Ils doivent s'unir afin de créer un équilibre entre ces valeurs, afin de se les enseigner mutuellement l'un l'autre et de générer un équilibre qui permet l'épanouissement. On est à une époque où on sent à quel point les valeurs masculines ont été trop prépondérantes et tellement prépondérantes qu'elles ont amené la société à un déséquilibre qui menace l'équilibre de la planète. La recherche de performance, poussée à l'extrême, elle a entraîné la compétition, la séparation et une baisse de la coopération entre les personnes. L'individualisme, donc tout ça c'est les valeurs masculines, a amené la recherche effrénée du profit, même aux dépens de l'autre, la surproduction, la surconsommation, le pillage des ressources de matières premières. Le monde a besoin que les valeurs féminines ressurgissent pour venir modérer cet excès, apporter l'esprit communautaire, la solidarité, l'écologie et permettre à la planète de guérir. De nos jours, les valeurs masculines, elles prédominent tellement qu'elles ont réussi à faire paraître les valeurs féminines inférieures. Du coup, il y a également beaucoup de femmes chez qui les valeurs masculines dominent. Elles se sont un peu perdues dedans. Aujourd'hui, il y a trop de femmes qui pensent que pour être une femme libérée et heureuse, il faut adopter les valeurs masculines, il faut devenir un homme. Une femme qui suit les pas d'un homme, elle semble intrépide, elle semble courageuse, indépendante. Un homme qui suit les pas des femmes, bah, il est surtout vu comme un sous-homme. Il y a un déséquilibre qui est frappant. Alain Soral, qui est un auteur, il l'exprime de façon extrêmement pertinente. Il explique que le mouvement féministe d'après-guerre, qui à la base était légitime puisqu'il tentait de combattre les inégalités entre l'homme et la femme, il a été très manipulé et mis au service de la société de consommation, donc à dominante masculine. On s'est servi des revendications féministes, d'émancipation, pour mettre les femmes au travail salarié et en faire des consommatrices. On a fait en sorte que la mère au foyer elle se sente aliénée, qu'elle culpabilise de s'occuper de ses enfants, qu'elle se mette à dénigrer le rôle éducatif qu'elle avait, qui était non marchand. Et finalement, on l'a fait passer de la sphère d'influence de son mari et de sa famille à celle d'un patron, afin d'étendre son pouvoir d'achat et sa capacité à consommer. C'est-à-dire qu'on l'a sortie de son travail non marchand à la maison, parce que c'est un travail, pour la diriger vers un travail marchand hors de la maison, qui était rentable. Alors, de trois choses l'une. Bah, premièrement, les premières victimes, ce sont les enfants et la transmission de la paix intérieure et l'évolution des générations futures. Deuxièmement, on peut se poser des questions. Est-ce que le travail représente réellement une liberté plus grande? Ça, je ferai une rubrique là-dessus sur le travail. Il serait une liberté si on avait le choix de travailler ou non. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de deux salaires pour s'en sortir. Le salariat, c'est une aliénation. Et derrière la femme qui travaille, il y a une autre femme qui est plus pauvre qu'elle, qui est rémunérée pour garder ses enfants. Donc, ça se fait aux dépens les unes des autres. Il n'y a pas de réelle liberté là-dedans. En plus, donc troisièmement, est-ce que ne pas travailler quelques années pour s'occuper de ses enfants, est-ce que c'est réellement une aliénation? À notre époque, en Occident, c'est plutôt un luxe. D'autant plus qu'on choisit la personne avec qui on vit sa vie, donc on n'est pas non plus soumis et contraint. Mais mieux que ça encore, Alain Soral estime que la femme devrait avoir le droit à un salaire maternel. Puisque la maternité, c'est un travail que biologiquement, ce sont les femmes qui accouchent et qui allaitent, donc ça reste dans la continuité logique, même si un homme peut tout à fait prendre le relais. D'ailleurs, c'est pas du tout un rêve inaccessible, parce que ce système de rétribution à la maternité, il existe en Suède, et que d'ailleurs là-bas, les pères, ils peuvent prendre une année entière de congé paternité. On est vraiment loin de ça, ici en France. La réalité chez nous, c'est que l'aliénation de la femme, elle réside dans le déséquilibre, non pas biologique, puisqu'il est naturel, mais le déséquilibre social entre l'homme et la femme. Les valeurs féminines, n'ayant pas augmenté en même temps que les valeurs masculines, les femmes, elles sont toujours derrière. Elles ont 27% de moins d'argent dans leur salaire, à travail égal avec les hommes. Et elles sont très peu présentes en politique. Et les femmes aussi, elles font toujours plus de travail domestique, plus du double de l'homme selon l'INSEE, qu'elles aient un travail salarié ou non salarié. Bon, il ne s'agit pas d'attiser les rancœurs, bien au contraire. Il faut bien visualiser qu'aujourd'hui, quelque part, les hommes sont victimes de cette prépondérance du masculin sur le féminin. Ils n'ont pas été éduqués à l'indépendance. Ils aimeraient changer tout ça, mais ils ne savent pas se situer vis-à-vis du travail des femmes. De nos jours, un homme qui fait la vaisselle, franchement, il s'attend à ce qu'on lui dise merci. Pareil, s'il donne le bain aux enfants et il fait le travail domestique ponctuellement pour aider sa compagne, il se trouve dans la difficulté de prendre une véritable initiative de vie quotidienne. Il a du mal à trouver sa place. Faut dire que la société entière, elle le pousse dans cette erreur. On dénigre le travail féminin. Tenez, il y a tout juste quelques semaines, j'étais invitée à l'anniversaire d'un petit garçon de 2 ans. Il y avait un des invités qui lui avait offert un aspirateur en jouet. Et sa mère, elle s'est sentie super offensée à l'idée que son fils puisse jouer avec un jouet réservé aux filles. Parce que pour elle, c'était à la femme de prendre soin du mari. À côté de ça, le petit garçon, il a joué avec l'aspirateur tout l'après-midi. Il voulait juste naturellement reproduire par imitation ce qu'il voyait faire quotidiennement. Donc c'est vous dire à quel point on peut choisir de conditionner les hommes et les femmes. Les magasins de jouets, ils distinguent très clairement, très séparément, les jouets des filles et de ceux des garçons. Avec du rose pour les filles et les autres couleurs pour les garçons. Bon, alors la petite fille, elle peut à la limite jouer avec une boîte à outils. Rigueur, bah, ça la rendra débrouillarde, mais que le garçon ne s'avise surtout pas de servir le thé à des poupées, et le malheureux, ça risquerait de lui donner des idées pour plus tard, vous imaginez pas. Mais les jouets, ils sont pas sexués, c'est nous qui les sexuons. Les hommes sont des victimes aussi dans leur gestion des émotions. On les a poussés à refouler. Un garçon ne doit pas pleurer, il doit être fort. Par conséquent, si vous avez écouté mes précédentes émissions sur le développement du cerveau dans l'enfance, par conséquent, ils ont généralement une mauvaise gestion de leurs émotions, une patience moins développée. C'est ce qui explique, par exemple, les violences faites aux femmes. Vous savez que chaque jour, il y a des dizaines de femmes qui meurent sous les coups de leur mari. Et c'est aussi cette mauvaise gestion des émotions qui pousse les hommes à se reposer sur les femmes pour l'éducation. Parce que l'éducation, c'est un challenge qui met nos émotions à rude épreuve parfois. Alors, les valeurs féminines d'empathie, de dévouement, de solidarité, de partage, elles ont besoin de s'épanouir chez les hommes pour venir rééquilibrer la société. Ces valeurs, elles s'ancrent dès l'enfance. Éduquez vos filles de la même manière que vos garçons, avec le même devoir d'empathie, la même douceur, le même matériel éducatif, les mêmes jouets, les mêmes sports, etc., etc. L'homme doit prendre dès maintenant sa place au sein de l'éducation. Il doit commencer par une prise de conscience très profonde de cette déchirure et travailler sur lui pour guérir sa vision mal aimée de son côté féminin. C'est par son attitude et son exemple personnel au jour le jour qui transmettra aux nouvelles générations l'équilibre dont elles auront besoin pour sauver la planète, pour sortir le monde de la crise économique et amener la société toute entière vers plus de tempérance et de paix. C'est vrai que je parle de notre société occidentale, faut pas oublier que dans d'autres pays, la situation de la femme, elle est encore mille fois plus difficile. Mais je pense que par voie d'influence, les pays se guériront les uns les autres. Faut commencer à considérer l'homme et la femme comme des êtres complémentaires, qui se nourrissent l'un l'autre. Et c'est à l'échelle personnelle que ça commence, dans les rapports qu'on entretient avec l'être aimé. Faut arrêter de se considérer comme des ennemis, faut s'unir. Unissons-nous dans la tolérance, dans le respect, dans la compassion, dans l'amour sans condition. Et dans l'éducation de nos enfants, bien sûr. D'autant plus que les enfants, ils nous plongent dans l'instant présent, parce qu'eux, ils y sont en continu. Donc ils nous aident à créer la paix en nous. Voilà, c'était le message que je voulais faire passer ce soir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie aussi ma copine Lorraine du blog Les questions qu'on pose. Compose, C-O-M-P-O-S-E-N-T, c'est un jeu de mots, qui m'a permis de travailler ma pensée. Et vous pouvez retrouver ma rubrique, bien sûr, sur www.change-le-monde.com.
Merci. Bonsoir Marion.
Merci Marion, bonne soirée.
Et à semaine prochaine. Quant à nous, on se retrouve dans quelques petits instants pour notre invité de ce soir. On va parler de bioénergie et de géobiologie. À tout de suite.
Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Le podcast, rendez-vous sur notre site www.enquête-spirituelle.com.
De retour dans cette émission Enquête spirituelle ce soir avec notre invité qui est en ligne, mais juste avant, Amy va rappeler les coordonnées vite fait bien fait pour les gens qui voudraient poser des questions à notre invité ce soir qu'on va vous présenter juste après.
Pélachic.
Oh.
Pourquoi vite fait bien fait? Non, bien Amy fait. Va répéter les coordonnées de l'émission, c'est tout. Elle va le faire excellemment bien, vite fait bien fait. Non, voilà. Tranquille, il n'y a pas besoin de faire les choses vite, il faut faire les choses avec allégresse, avec douceur et gentillesse. Le message est compris?
On t'écoute, Amy.
Voilà. Rien à foutre, en
merci
fait.
Merci, Thomas.
Rien à foutre. Voilà.
Alors, allez, vous pouvez Amy. Nous contacter sur le chat, donc via le site de la radio maxfm.be. Vous cliquez sur la webcam, vous nous voyez, vous nous entendez, et vous pouvez donc poser vos questions, commenter en direct sur le chat en direct. Nous envoyer un email info@enquête-spirituelle.com et par téléphone pour la Belgique 068 480 551. Depuis la France ou la Suisse, pour les Suisses qui nous écouteraient, 00 32 68 480 551.
Voilà, comme ça, tout est dit. Et on a notre invité en ligne qui est en fait monsieur Stéphane Cardino qui est en ligne depuis la Suisse. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous allez bien?
Oui, ça va bien, il fait beau. Voilà.
Vous avez du beau temps aussi, c'est chouette, ça nous change. Hein. Nous, on avait un mois et demi de pluie, donc là, on a du beau temps un peu partout, c'est chouette. Alors, ce soir, on va parler d'un des deux sujets, parce que vous êtes géobiologue et aussi, surtout, vous m'avez dit hors antenne, vous travaillez sur la bioénergie.
Intéressant.
Ça doit être un sujet assez vaste, il y a de quoi dire, je pense. Mais tout d'abord, quel est un peu votre parcours? Comment en êtes-vous venu à découvrir tout ce qui est la géobiologie et même la bioénergie?
Oui, donc de formation, je suis architecte, donc de l'école polytechnique de Lausanne. Et puis j'ai travaillé pendant 12 ans comme architecte dans un grand bureau comme chef de projet. J'ai construit quand même pour quelques centaines de millions d'euros de construction de toutes sortes de logements, d'écoles, de bâtiments administratifs, et puis un hôpital pour finir. Voilà, c'est un peu ma dernière œuvre. Et en parallèle, je m'intéressais beaucoup à la géométrie sacrée et puis aussi un petit peu aux énergies, quoi, surtout les énergies des lieux sacrés. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé un petit peu à pratiquer dans ce domaine, à ressentir dans les lieux. Et ensuite, donc, ça m'a amené à faire des expertises chez les gens pour voir un petit peu les problèmes, à enseigner tout ça au bout d'un moment. Et puis... évidemment que j'utilisais des outils qu'on appelle outils radiesthésiques, c'est-à-dire des instruments qui permettent d'amplifier un peu le ressenti. Et puis petit à petit, comme le ressenti s'est développé, et je me suis passé un peu tous les instruments. Et après, je me suis intéressé à ce qui permettait, disons, de mesurer le champ d'énergie des gens par différentes méthodes, soit de ressenti, soit des appareils physiques. Donc là, je pense le temps de un petit peu discuter de tout ça. Et puis de voir un petit peu non seulement ce qui se passait dans les lieux ou chez les gens ou même disons à l'intérieur des personnes elles-mêmes suivant les endroits où elles se tiennent. Voilà un peu en gros mon parcours quoi. J'enseigne tout ça actuellement.
Voilà, vous avez un parcours bien chargé.
Ouais, j'ai fait pas mal de choses.
Voilà. Et vous avez écrit aussi des livres, je pense.
Oui, alors j'écris 4 livres. Les 2 premiers sont plutôt sur la géobiologie et la géométrie sacrée. D'ailleurs, le titre, c'est « Géométrie sacrée ». Voilà, mais il n'y a pas que de la géométrie dedans. Hein. Il y a quand même une bonne partie qui est liée au lieu, à l'aspect aussi historique, archéologique, ressenti des énergies et tout ça. Et puis après, j'ai enchaîné avec un ouvrage sur la bioénergie, qui est plutôt du ressenti... mesure dans des lieux du ressenti, mais toujours des choses faites avec les mains. Et puis là, normalement, il devrait être sorti, il l'a annoncé, mais je ne sais pas s'il est encore sorti, si c'est déjà le cas en Belgique. Donc un ouvrage sur de nouveau plutôt ce que j'appelle la clairvision, la capacité à observer les choses dans les lieux et les gens, et également les mesures avec des machines quantiques, avec 2 machines. Je pense qu'on aura le temps aussi de développer un petit peu là-dessus, parce que là, c'est ce qui m'intéresse, disons, le plus actuellement. Le titre, c'est « Science et conscience de l'invisible ». Voilà, toujours aux éditions Trajectoire, comme les 3 précédents.
Ok.
Donc c'est tout frais.
Ok. Alors, ce soir, on va parler donc de bioénergie. Alors, la première grande question, c'est qu'est-ce que la bioénergie ?
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de définition très claire, puisque en fait, c'est pas. Il y en a une donnée, on va dire officiellement, qui est liée à l'énergie du vivant. Donc, oui, c'est bien ça. Bon, c'est vrai que là, c'est plutôt orienté biomasse, énergie du vivant pour produire de l'énergie, hein, voilà. Tandis que là, la bioénergie, c'est plutôt, dans le sens dans lequel je la pratique, tout ce qui est relatif à la circulation de l'énergie à l'intérieur du corps humain. Voilà, ça on peut dire que, en gros, c'est ça.
Ok, ça n'a pas à voir avec l'énergie des endroits, des lieux. Ou alors les deux sont liés, peut-être.
Non, ça n'a pas directement à voir avec l'énergie des lieux, mais c'est clair que lorsqu'on est sur un lieu, notre énergie change, puisqu'on entre en interaction avec le lieu, et donc si un lieu a plus d'énergie, alors on va se recharger, mais s'il a moins d'énergie, évidemment on va perdre de l'énergie et être fatigué.
Okay.
Donc ça m'a permis, entre autres, de voir l'interaction avec les lieux. Bon, on peut parler de ça, c'est clair.
Bien sûr.
Allez-y, parlez-en.
Bon, donc...
oui, on est plusieurs à parler, hein, rassurez-vous.
D'accord. Ouais.
C'est Thomas.
En fait, c'était parti de l'idée que, bien sûr, moi j'avais du ressenti, je voyais des choses sur les gens, je mesurais, je faisais des bilans, en fait. Et donc j'arrivais à déterminer les zones de blocage dans le corps, ce qui n'allait pas, et tout ça. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et puis, évidemment, que j'ai essayé de faire le lien avec la géobiologie, donc l'énergie des lieux. On va dire plutôt avec les lieux sacrés que d'aller mesurer chez les gens. Hein. Mmh. Donc, alors l'idée, c'était d'avoir un outil qui permettait de se rendre compte de qu'est-ce qui se passait dans le corps humain quand on était sur certains types de phénomènes. Voilà. Alors, des phénomènes à la fois négatifs, quand on est sur des failles, enfin, des courants d'eau, tout ça, ce qui est le propre, disons, de la géobiologie. Et puis, aussi, quand on était, disons, avec des pollutions électromagnétiques, surtout les téléphones sans fil, tout ça. Voilà, donc on a un petit peu mesuré avec différentes machines pour voir ce qui se passait quand on est dans une zone neutre, ensuite quand on est sur le lieu, et ensuite combien de temps il faut pour récupérer. Donc ça donne des images.
C'est, voilà. Ça parle images, aussi de réseau, en fait, ou c'est par rapport aux ondes telluriques aussi?
Un peu moins. Un peu moins, parce que les réseaux telluriques sont des phénomènes qui ne sont pas, disons, les plus puissants, quoi. Mm-hmm. Donc, dans les lieux, on s'est plutôt intéressé au courant tellurique, parce qu'il y avait, disons, une énergie quand même un peu plus forte. Pour qu'on puisse capter que les machines, il faut quand même un minimum, quoi.
Oui, tout à fait.
Elles sont sensibles, mais quand même. Donc, l'idée, c'était de confronter à la fois le ressenti. Donc on prend toujours plusieurs personnes, et puis chaque personne va ensuite décrire ce qu'il ressent dans le lieu. Là, par exemple, où il y a des sensations dans le corps, le type de sensations dans le corps, et puis les machines permettent soit de faire des images avant, pendant et après, soit de mesurer en continu. Il y en a qui peuvent faire ça. Alors c'est intéressant parce qu'on voit au fur et à mesure comment le corps réagit au phénomène, comment il s'adapte. Si par exemple le phénomène est, comment on dit, négatif, et comment le corps essaye de rééquilibrer en fait son système énergétique. Donc ça c'est pour les lieux, on va dire, un peu négatifs. Voilà. Et puis pour les lieux dits, on a mesuré les châteaux hantés, enfin on a mesuré les trucs, voilà. Et puis pour des lieux qui sont positifs, on a été mesuré dans surtout des pierres, quelques églises. Et puis à chaque fois, c'est toujours le même protocole. Là, on se mesure avant, après, avec certaines machines, ou on se mesure en continu. Voilà, on met les mains, on met des électrodes, et puis on regarde un petit peu ce qui se passe dans le corps. Ça nous permet d'un petit peu mieux comprendre en fait le lieu et de ce qu'il fait sur le corps, quoi.
Ah oui, c'est quel type de machine que vous utilisez? C'est des machines qui permettent de voir sur des écrans, ou vous pouvez un peu expliquer?
Oui, alors on utilise principalement deux machines. Donc une machine, c'est ce qui s'appelle le GDV. GDV, en fait, c'est une machine Kirlian. Développé par le professeur Korotkov, c'est une machine qui permet de visualiser les photons qui sortent des doigts. En gros, comme si on faisait une image dans une chambre noire, hein, ça fonctionne comme ça, une image des doigts avec la lumière qui sort des doigts. Et puis, ce professeur a passé pas mal d'années à étudier ça et à essayer de trouver les corrélations entre les images, donc les photons qui sortaient des doigts, et puis les différentes parties du corps. Et donc, à partir de là, donc une fois qu'on a mis les doigts dans la machine, ça reconstitue une aura. C'est-à-dire que ça dessine l'aura avec les zones où l'énergie est bonne, les zones où l'énergie est insuffisante, et puis celles où l'énergie stagne. Voilà, on fait une espèce d'image générale. Elle est 3D parce qu'on a la vue de face et les vues latérales. Donc on voit vraiment le corps dans sa totalité. Donc ça, c'est une machine. Elle permet non seulement de mesurer les gens, donc d'établir des bilans, parce que c'est la fonction de base de cette machine, mais on peut aussi, au lieu de mesurer les gens, en fait, utiliser une sonde que l'on place dans le lieu, et donc on va mesurer l'énergie du lieu. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on peut soit la mesurer en continu, soit faire des images toutes les 4-5 secondes. Donc on peut faire des films avec l'évolution de l'énergie d'un lieu, et ça c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de machines qui sont capables de le faire.
C'est une machine que vous avez développée?
Non, j'ai pas développé. J'ai un peu développé les protocoles. Mmh. Et puis, j'ai développé le système d'interprétation pour cette machine. Parce qu'elle donne des images, mais elle n'interprète pas. Elle fournit des images brutes. Hein.
Ouais.
Voilà. Donc, par contre, elle dit quel organe c'est. Ça, c'est tout est calculé. Ça calcule le niveau de fatigue, ça calcule les réserves d'énergie, ça ça calcule également tout l'alignement des chakras, l'énergie dans les chakras, l'énergie de... au total, il y a 70 organes qui sont analysés en détail. Voilà, donc ça permet de faire quand même des bilans très complets pour les gens. Et par contre, les protocoles pour mesurer les lieux, c'est un peu moins clair, quoi. C'est-à-dire qu'ils là, ils ont fait quand même un peu moins d'expérience, donc ça, c'est un petit peu, je dirais, novateur.
Ok.
La deuxième machine, je peux utiliser la deuxième machine ou...
Oui, bien sûr.
Oui, la deuxième machine, donc la première, c'est russe, hein. La deuxième est une machine allemande qui utilise le principe de la réflexologie, c'est-à-dire que c'est toujours une machine quantique comme l'autre, mais en mettant la main, il y a des picots qui vont capter en fait ce qui se passe dans la main, et donc au niveau électrique. Et là aussi, ça va traduire sur il y aura 43 organes qui vont être analysés en continu. Ça va dessiner aussi l'aura en couleur, qui est pas une aura fixe, mais une aura dynamique. C'est-à-dire, vous voyez, votre aura évoluer en fonction de la situation seconde par seconde, quoi. C'est toutes les demi-secondes que ça calcule. Voilà, donc ça, c'est des machines qu'on appelle machines quantiques, donc qui sont des aides pour pouvoir observer, en fait, ce qui se passe à l'intérieur du corps humain.
Eh bien, c'est très précis, ça a l'air très très complet et en même temps complexe, parce qu'il faut à mon avis avoir certaines connaissances pour pouvoir analyser tout ça.
Oui, bon, j'avais surtout pas mal étudié la bioénergie, donc ce qui fait que j'avais un bagage d'une douzaine d'années d'expérience, ce qui m'a permis de pouvoir appréhender ces machines, disons, assez rapidement, quoi. Mais il faut compter environ 2 ans pour commencer à maîtriser ce genre de machine, quoi.
Ok, ok.
Donc c'est quand même assez lent, parce qu'il faut de l'expérience, il faut mesurer les gens. Donc en mesurant avec mes mains, je mesurais à peu près 7000 personnes. Et puis en mesurant avec les machines, je suis à peu près à 1 000 000 de personnes à l'heure actuelle.
Ok, eh bien avant d'aller plus loin, on fait une première pause musicale ce soir dans cette émission Enquête Spirituelle. On se retrouve dans quelques petits instants. A tout de suite.
Enquête Spirituelle. Enquête Spirituelle. Enquête Spirituelle. Découvrez tous les sujets pour ouvrir votre spiritualité. Faites-vous votre propre avis. Nous laissons la parole à nos invités.
Et notre invité de ce soir, c'est Monsieur Stéphane Cardino qui nous parle de bioénergie. Et juste avant la pause musicale, on parlait des deux machines en fait qui servent un peu à mesurer tout ça. Et vous avez des exemples de ce qu'on peut mesurer avec, c'est ça, hein.
Voilà. Donc, je donnerai un exemple comme ça, c'est peut-être plus simple pour comprendre
plus clair,
un petit peu qu'il en est de ces machines. On appelle ça des machines quantiques, hein. Donc, elles travaillent à la fois sur soit sur les photons qui sont émis par le corps, soit sur les électrons qui sont émis par le corps. Ok.
Ok.
Donc ça, c'est le principe physique qui est mesuré, hein. Donc, par exemple, on l'a utilisé pour examiner un petit peu ce qu'il en était d'un site néolithique, donc une période qui se situe aux environs entre moins 4000 et moins 2000. Donc, c'est une pierre à cupule, c'est une pierre magnifique qui fait 2 mètres de diamètre à peu près, qui est plate, qui est au sommet d'un col à 1500 mètres d'altitude, du sommet d'altitude, et puis qui est couverte de cupules, hein. Donc, c'est des espèces de cavités demi-sphérique en fait, mais des belles parce que les grandes cupules font à peu près environ 10 à 12 cm de diamètre, donc c'est vraiment une pierre qui a un grand intérêt au niveau historique. Et donc cette pierre n'est pas n'importe où, elle est située sur un lieu de passage important de cette époque, mais surtout sur des phénomènes bien particuliers. Voilà, donc ce qui nous intéressait, c'était de voir un petit peu ce qui se passait au niveau de ces cupules et puis des phénomènes qu'on avait observés. La première opération, vu qu'on travaille toujours à plusieurs, c'est d'observer un petit peu ce qu'il y a sur la pierre, donc d'analyser les phénomènes dits géobiologiques, donc le courant tellurique, les réseaux telluriques, hein, les lignes, également les cheminées cosmotelluriques, les vortex, enfin un certain nombre de phénomènes. Ces phénomènes ont des couleurs également, donc on va cartographier le lieu avec les couleurs. Et une fois que c'est fait, on peut l'expérimenter. Donc on va simplement s'asseoir à certains endroits sur la pierre Elle n'est pas très haute, elle fait 50 cm au-dessus du sol, hein, donc on peut monter dessus, ça sort sans problème. Mm-hmm. Et puis, avec les machines, on va mesurer les gens. Donc, on mesure les gens avant. Ensuite, on mesure les gens sur les différentes positions qu'on aura déterminées pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on mesure toujours 2-3 personnes, hein, pour avoir un petit peu une idée. Et puis, ce que l'on voit apparaître, c'est que, généralement, si un lieu, par exemple, a une couleur plutôt dans les rouges, à cause d'un phénomène, alors il y aura une action très spécifique sur les parties basses du corps, c'est-à-dire les pieds, les jambes, les mollets, voilà. Et donc, on peut observer en fonction des couleurs, et donc des longueurs d'onde émises par le lieu, des actions spécifiques à certains endroits du corps.
Okay.
Voilà. Alors après, les gens, ils peuvent se sentir plus ou moins bien, ça c'est personnel, mais en général, la couleur correspond très bien à la zone qui est concernée dans le corps.
Ok, et vous avez des exemples de couleurs?
Pardon?
Je dis, vous avez des exemples justement de couleurs qui sont les principales, on va dire, ou celles qui reviennent le plus souvent?
Il y a un peu de tout, hein, dans les couleurs. Donc, on peut pas dire qu'il y a des couleurs principales ou pas. Il y a tout le spectre, en fait, des couleurs, depuis les rouges en montant jusque vers les violets, magenta. Mais c'est vrai que les couleurs habituelles sont plutôt des couleurs qui vont, je dirais, du rouge en passant orange, jaune, vert, quoi. Après, c'est un peu plus rare pour les lieux. Donc, c'est souvent les couleurs plutôt du bas, donc des lieux qui ont, disons, une capacité à donner de l'énergie et puis à ancrer aussi. Donc, quand on est sur place, on a l'impression d'être lourd, bien enraciné, être bien dense, avoir beaucoup d'énergie. Voilà, ça c'est pour les lieux qui sont dans les couleurs dans le bas du spectre. On voit bien avec les machines l'action spécifique sur la colonne vertébrale, donc l'énergie qui monte sur les jambes, les pieds, tout ça. Et puis, souvent elles ont aussi une action sur le cerveau, où en fait on a le cerveau qui se calme un peu, on réfléchit un peu moins, et voilà quoi. Donc c'est des fois aussi assez favorable. Et puis il y a les énergies plutôt du haut. Alors le haut, ce sera plutôt dans les couleurs entre les indigos, pourpre et magenta, où là on a une action spécifique au niveau de la tête, donc au niveau du cerveau, des glandes qui sont dans le cerveau, parce que ça va concerner 3 glandes, l'épiphyse, l'hypophyse et l'hypothalamus. Et puis là, c'est vrai que c'est des lieux qui peut-être servaient de lieu d'oracle ou capacité à percevoir les choses, à comprendre les choses, à certainement aussi à voir l'avenir et des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu ce genre de lieu. Mais il y en a un peu moins de ceux-là. Okay. Les lieux pour se ressourcer sont plus nombreux que les lieux pour accéder à des états modifiés de conscience.
Ok, ouais, c'est vrai qu'après, ça serait un peu donné à tout le monde, on va dire. Si ça en avait un peu partout, ce serait trop simple.
Ouais. Bon, on a examiné pas mal de lieux différents, quoi. Soit de l'époque néolithique, mais aussi du gallo-romain, du Moyen-Âge, un peu tout, quoi.
Et quels sont les lieux qui vous ont marqué le plus?
Moi, c'est quand même la période néolithique qui m'intéresse le plus, parce que je trouve les lieux un peu plus naturels, quoi. Enfin, aussi, ce qu'il y a, c'est que les lieux néolithiques, généralement, ils sont un peu perdus dans la forêt ou dans la montagne. Alors, il est clair qu'il y a aussi tout le plaisir d'y aller, d'être dans la nature, et de trouver des pierres, dont certaines sont même encore pas vraiment connues des archéologues. Donc, il y a un peu ce côté recherche, quoi. Les autres, les églises et tout ça, bien sûr, bon, ça, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup été dans ce genre de lieu. Donc, c'est intéressant aussi, surtout quand il y a des cryptes. Là, les cryptes souvent ont des énergies très intéressantes, pour autant que ce soit des bâtiments construits quand même avant 1350, parce qu'après les lieux deviennent quand même moins intéressants. Donc voilà, mais avant 1350, surtout pour toute l'époque romane et le début du gothique, on a des lieux pour se recharger, pour aussi calmer le mental, qui sont intéressants aussi. Ouais.
Juste une petite question, enfin j'ouvre une petite parenthèse. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'aller mesurer sur des crop circles? Parce qu'on a un spécialiste qui est déjà venu dans une émission et qui a un peu expliqué le phénomène et qui a dit que ça dégageait beaucoup d'énergie. Est-ce que j'ai eu l'occasion d'aller là-dedans? Ou si ça vous intéresse pas
oui,
du tout peut-être?
Alors, je l'ai fait aussi. Et Ben, oui, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc ça, il n'y a pas de doute. Par contre, là où je suis plus mitigé, c'est que, disons, si quelqu'un pense qu'il ressent quelque chose, on voit qu'il ressent. Les machines ne disent pas si c'est une réalité ou pas une réalité, ils disent ce que les gens ressentent. Mm-hmm. Donc, voilà. Donc, ce qu'on a ressenti à l'intérieur. Donc, si on dit « Ah, mais là, je me sens bien », on voit qu'ils sentent bien. Mais s'ils disent « Je me sens mal », alors on voit qu'ils sentent mal. Bon, la machine confirme le ressenti. En général, elle ne dit pas l'inverse. Maintenant, c'est vrai qu'à travers l'appareil GDV qui permet de mesurer un lieu indépendamment d'une personne, parce que c'est ça, parce que sinon on n'est pas neutre, hein, indépendamment d'une personne, donc on a aussi constaté qu'il se passait quelque chose. Mais il faut savoir que dès que quelqu'un va dans un lieu, la personne n'est pas neutre, elle a tendance à modifier les énergies du lieu, consciemment ou inconsciemment. Et donc, après, le phénomène, si elle l'a fait consciemment ou inconsciemment, ça ne change pas. Le lieu, il est différent et la machine, on voit que le lieu est différent.
Ok.
Ben, on a même fait des expériences où on changeait un lieu dans le temps. On mesure sur plusieurs minutes, généralement 10 minutes ou 15 minutes, et on voit exactement le moment précis où la personne modifie les énergies du lieu. Donc, rien qu'une personne qui rentre dans un lieu ou sort d'un lieu, ça s'observe avec ces machines. Donc vous voyez, c'est quand même assez sensible.
Ouais, c'est quelque chose d'assez phénoménal. C'est un peu le même principe qu'on peut retrouver dans les supermarchés ou dans les grands magasins. C'est des lieux pas vraiment énergétiques, mais si quelqu'un est de mauvaise humeur ou a des énergies négatives, ça se propage un peu sur tout le monde, quoi.
Ouais, exactement. Et aussi sur les aliments, parce que ça, on l'a mesuré.
Ah oui.
Ah bah oui. Ah bah c'est clair.
Ah bah bien sûr.
L'état d'esprit d'une personne, il y a une influence. Le vigneron, l'état d'esprit d'un vigneron influence son vin. Mmh. L'état d'esprit d'un maraîcher influence ses légumes.
Exactement.
Et donc, c'est pas juste qu'on pendule ou qu'un ressenti. Hein. C'est que carrément, on arrive, si on a une certaine sensibilité, à dire même le type de problème. Donc vous voyez que ça peut aller assez loin. Avec les machines, elles disent juste qu'il y a quelque chose qui se passe, hein, elles disent pas autre chose. Mais avec le ressenti, on arrive même à dire ce qui se passe, même dans les problèmes de la personne, quoi. Donc vous voyez que tout ceci s'inscrit pleinement, en fait, dans tout ce qu'on touche, dans les aliments, dans tout ça, quoi.
Ok, c'est vrai.
Vraiment... En circle y compris, donc c'est pour ça que dire que neutre ou pas neutre, j'en sais rien, donc... je vais probablement aller voir des crop circles cet été, donc peut-être que j'aurai d'autres infos, quoi. Mais là, j'avais mesuré ceux qui avaient été faits en Suisse.
Ok, bon, c'était une simple question parce qu'on avait déjà eu un invité, vous connaissez peut-être, Umberto Molinaro, qui est enquêteur là-dessus et qui avait expliqué un peu, qui s'intéresse justement au phénomène d'un point de vue énergétique et de tout ce qui fait. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que qu'il sera en conférence avec nous le 10 juin. Voilà, on en parlera plus tout à l'heure. Hop, fermeture de la parenthèse.
Il n'y a pas de doute, il y a quelque chose. Ouais. Même si c'est fait par des humains,
ouais.
Il y a quand même quelque chose.
Ah bien, merci de le confirmer. C'est gentil. Alors, maintenant, revenons à la bioénergie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la bioénergie, justement? Comme ça touche plutôt à ce moment-là, c'est le corps humain en tant que tel. Est-ce qu'on agit sur les chakras ou alors il y a peut-être d'autres choses qu'on ne connaît pas dans le corps humain, autres que les chakras qui permettent de canaliser l'énergie à ce moment-là?
Oui, la bioénergie, c'est quand même assez complexe parce qu'il y a plusieurs niveaux, en fait. Et donc, le niveau de base que tout le monde connaît, c'est le principe physique. Donc, c'est le corps physique avec sa constitution, les différents organes, également tout le système de circulation, des fluides ou de l'électricité dans le corps. Donc, il est clair que même dans ce qui est plus subtil, il y a quand même un rapport avec ça. C'est-à-dire que l'anatomie subtile, comme on pourrait dire, est quand même tributaire de l'anatomie physique. C'est-à-dire que si ça touche le foie, si le foie a un problème, on verra sur le méridien du foie, donc sur le plan plus subtil, sur les énergies de l'organe. Donc on a quand même décomposé le corps de la même manière, parce que sinon ça devient un petit peu compliqué de décrire les choses. Donc ça c'est le plan physique, hein, ça c'est l'anatomie, physiologie de base. Bon. Ensuite, sur le plan un petit peu en dessus, nous avons ce qu'on appelle le plan éthérique. Donc je mets là-dedans tous les systèmes qui sont liés à la circulation de l'information dans le corps. Alors l'information, elle est sous différentes formes, elle est aussi sur le plan quantique, c'est-à-dire qui véhicule, il y a des électrons qui se déplacent. Il y a aussi des émissions de lumière. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont physiques, mais plutôt au niveau des particules. Hein, c'est tout petit. Voilà. Et les appareils, c'est souvent ça qui mesure un peu les choses qui sont quand même de l'ordre de physique, mais c'est une échelle toute petite, donc une échelle quantique. C'est pas les molécules, c'est vraiment les particules qui sont dans le corps. Donc cette science-là, en fait, c'est la biophysique. Voilà. Et donc la biophysique traite de la circulation de l'énergie dans le corps. Alors là-dedans, on peut y mettre les méridiens. Donc tout ce qui est lié à la médecine chinoise, les méridiens ont quand même une composante physique. Parce que ça a été mesuré, il y a des Russes qui ont des appareils qui permettent de visualiser les méridiens, de voir les points sur le corps, enfin tout ça. Donc on est quand même dans des phénomènes physiques. Hein, okay. Et puis après, on a une information qui est un petit peu plus subtile, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas très bien à la visualiser avec ces machines, mais qui est une circulation générale de l'énergie. Alors, on parle de Kundalini, on parle de chakra, hein, donc d'énergie qui passe à travers différents centres énergétiques. Voilà, ça c'est l'éthérique. Et puis, on passe ensuite au niveau astral. Astral, c'est un peu tout l'émotionnel. Donc l'émotionnel, évidemment que là, c'est plus difficile de mesurer, parce que mesurer la joie ou la tristesse, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'appareils qui permettent de faire ça. Mais même si c'est pas quantifiable, c'est quand même décelable au niveau de l'information. Si quelqu'un est triste, il a tendance à bloquer certains organes dans le corps. La tristesse, par exemple, ça va être les poumons. Donc il y aura moins d'énergie au niveau éthérique dans les poumons. Il y aura des informations de tristesse dans les poumons. Il y aura des particules qui vont pas se répartir de la même manière. C'est-à-dire que l'énergie, les électrons vont pas se déplacer librement dans le corps, mais vont faire des amas à certains endroits. Et donc, les machines quantiques vont mettre en évidence qu'il y a un problème à cet endroit. Donc on va dire, oui, s'il y a un problème au poumon, il y a une grande probabilité que ce soit une tristesse d'événements vécus par la personne qui n'ont pas été acceptés et que la personne n'a pas encore vraiment digéré ses émotions. Voilà, ça c'est le plan astral. Et en dessus du plan astral, vous avez le mental. Alors le mental, c'est le système de croyance, hein, c'est surtout ça. Donc évidemment que si vous n'acceptez pas quelque chose parce que votre mental vous dit non, cet événement n'a pas existé, non, je n'ai rien ressenti, alors évidemment vous allez bloquer l'émotionnel qui va bloquer l'éthérique, qui va bloquer au niveau quantique, bloquer des charges dans le corps, et au final on va mesurer ces charges. Voilà un petit peu comment ça se passe à travers les différents plans. Donc effectivement, la bioénergie, c'est complexe parce que il y a plein de niveaux différents. Si je prends par exemple l'appareil GDV, là, l'appareil Kirion, il va regrouper sur une image ce qui est physique et énergétique. Alors on verra aussi bien les organes qui ont des déficiences du point de vue de la médecine chinoise, mais aussi des organes qui ont des déficiences du point de vue de la médecine occidentale. Voilà, on verra des fractures aussi, des blessures, des coups qui ont été pris et tout ça. Donc il y a un côté très physique, mais il y a aussi des choses où les organes peut-être vont pas très bien, mais ils sont pas encore malades. Par contre, si on attend un peu, au bout d'un moment, ils finiront par être malades. Hein. Dans le temps, ça a tendance à passer de l'éthérique au physique. Et cette image-là, c'est l'image que l'on rayonne. C'est l'image que les gens captent. Et donc, quand vous êtes à côté de quelqu'un, c'est un peu l'impression que vous avez de la personne. Et puis, il y a une deuxième image qui est fournie par la machine qui montre tout ce qui est émotionnel et mental. Alors, c'est intéressant parce qu'on regroupe les deux, malheureusement, ensemble, mais quand même, on a cette fois une image qui correspond à ce que la personne pense d'elle-même. Les sentiments qu'elle a, les émotions, Et là, on peut décrypter complètement tout ce que la personne pense, même à l'instant précis. Alors, ça fait un peu détecteur de mensonges, c'est vrai. Des fois, les gens sont très surpris de voir qu'on arrive à lire complètement dans leur tête avec ce genre de machine. Bon, la machine, elle dit rien. J'ai mis au point un système de décodage d'informations. C'est d'ailleurs le sujet du livre qui va sortir bientôt là, où là-dedans il y a tout le système d'interprétation de ces images à travers les croyances, les émotions, les ressentis dans le corps, les douleurs dans le corps et tout ça. Voilà, donc c'est un peu deux images. Évidemment que vous avez l'écart entre les deux images, parce qu'il est clair que si vous donnez une bonne image de vous-même et que vous avez une piètre image de vous-même, alors évidemment ça crée un décalage. Et ce décalage entre les deux images va vous donner en fait un niveau de stress. Donc souvent les gens qui transpirent, c'est pas parce qu'il fait chaud, c'est parce qu'il y a un décalage entre l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et l'image qu'ils donnent aux autres. En général, l'image qu'on donne aux autres est nettement meilleure que l'image que l'on a de soi-même.
Ouais.
Un peu pour résumer la machine, quoi, ce qu'on peut faire avec cet appareil.
Ok, eh bien, avant d'aller plus loin, on va marquer une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette émission Enquête spirituelle avec notre invité de ce soir, Stéphane Cardinaux. À tout de suite.
Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Le podcast, rendez-vous sur notre site www.enquête-spirituelle.com.
Et on salue d'ailleurs tous les gens qui nous écoutent en podcast, qui sont de plus en plus nombreux. On vous salue au passage.
C'est quoi les chiffres justement ?
Oh, on arrive bientôt à 55 000 téléchargements.
C'est
de plus en plus. On remercie tous les gens qui nous écoutent, car on est écoutés partout dans le monde. Amy, pour ceux qui ont une question à poser à notre invité de ce soir.
Alors, par email, info@enquête-spirituelle.com, par téléphone, pour la Belgique, 068 480 551, depuis la France et l'étranger, 00 32, 68 480 551, sinon vous avez également le chat en direct sur le site de la radio maxfm.be, vous cliquez sur la webcam, vous nous voyez, nous entendez, et vous pouvez également poser vos questions en direct.
Et notre invité de ce soir, monsieur Stéphane Cardinaux, qui est en ligne depuis la Suisse. Donc on parlait un peu de toutes ces machines qui permettent de mesurer, justement. Ça permet de faire un bilan, mais ça ne permet pas de soigner, hein, c'est ça.
Voilà, donc les machines que moi j'ai sont des capteurs. Donc elles vont simplement capter l'information dans le corps et puis la transcrire sous différentes formes. Voilà, c'est du graphique, c'est des images, enfin, il y a tout un côté visuel pour pouvoir observer un petit peu ce qui se passe dans le corps. Ça donne des listes, ça donne enfin plein d'informations et des chiffres. Voilà, en gros. Bon, mais il est clair que la machine, elle fait que ça, mais elle n'interprète pas. Donc après, il faut quand même l'humain derrière pour quand même avoir une vision un peu globale de tout ça. Et puis de commencer à faire un petit peu les liens entre les choses que l'on observe. Moi, j'ai la chance d'être en fait aussi clairvoyant, donc je vois un peu les gens en transparence, hein, comme je le dis des fois. Après, j'en ai un petit peu peur parce que ouh là là. Donc, c'est vrai que je peux sélectionner. Je fais un peu comme les machines. Je sélectionne les différents plans. Je peux observer que les problèmes physiques. Je peux observer les problèmes émotionnels, les problèmes de mémoire cellulaire, de choses qui traînent du passé et tout ça. Et donc, je complète un peu tout ce que mes machines me donnent, avec aussi une vision de, disons, personnelle, avec ce que je peux voir, observer sur le corps. Voilà, je vois en couleur. Alors, ça, l'avantage aussi, c'est qu'on peut décrypter en fonction des couleurs ce qui se passe dans chez les gens.
Et puis, excusez-moi, quand vous dites que vous êtes clairvoyant, c'est-à-dire que vous voyez les auras également autour des gens ?
Je vois les auras autour des gens, ouais.
Mais vous les voyez avec vos yeux ou par la pensée ?
Oui, moi j'ai la particularité de les voir avec mes yeux.
Ah, génial !
Parce que souvent les gens, ils doivent fermer les yeux.
Oui, ben moi je les vois par la pensée en fait.
Voilà, donc il y a plein de gens où c'est par la pensée, mais c'est plus, on dirait, comme claire information.
D'accord.
Ça travaille un petit peu par médiumnité, si vous voulez.
Oui, d'accord.
J'utilise aussi un peu ça, hein. Mais fondamentalement, moi, je suis clairvoyant. Donc clairvoyant, c'est une vision directe, superposée sur la personne.
Ça, c'est
donc,
génial.
Donc directement en m'approchant d'une personne, aller vers elle et puis dire, voilà, dans le dos, le point qui ne va pas, c'est celui-là, et peser directement au bon endroit.
D'accord.
Vous voyez, c'est parce que j'ai une vision directe, superposition, en fait, des informations, un peu comme si on avait un écran et qu'on verrait à travers cet écran, vous savez, comme les avions de chasse où les pilotes, ils ont les informations sur l'écran. Bah, moi, c'est à peu près ça.
Voilà. Mais alors, uniquement sur les personnes que vous soignez, pas dans la vie de tous les jours, vous baladez dans la rue et vous voyez les auras de tout le monde.
Faut être oui.
Oui.
Je vois tout le monde. Tout le
moi,
temps,
ça m'arrive vraiment des fois à en voir dans la rue. Hein.
Donc, ouais.
Faut gérer, hein.
Mais bon, je peux couper aussi.
Oui, bien
l'avantage,
sûr.
C'est que d'accord. Je peux couper pour pas avoir en permanence, parce que sinon, on est un peu submergé d'informations, quoi.
Mm-hmm.
Donc, mais des fois, je garde que celles qui m'intéressent. Alors après, ben voilà. De voir par exemple ce que la personne est venue expérimenter dans la vie. En gros, c'est les métiers. Donc, quelque part, je vois les métiers. Ça, je peux garder en permanence.
Bien sûr.
Je peux choisir un peu ce que je veux, quoi. Les méridiens, les organes, les émotions, voilà, quoi. Bon, ça, mais je peux couper comme je veux. Par contre, quand quelqu'un vient pour faire un bilan, alors je prends chaque élément l'un après l'autre. C'est comme si je scannais à chaque fois. Je ne vois pas tout en même temps. Je dois faire par étape chaque scan pour chaque phénomène. Voilà. Et je les cartographie. Et ça complète les informations de la machine. Voilà. Donc ça, après, d'accord, ça me donne une bonne idée du système énergétique de la personne et comment elle réagit, en fait. Voilà. Et puis, alors, bah, les soins, bon, bah, je fais aussi des soins. Donc, c'est des corrections, comme j'appelle. J'utilise pas le terme de soins, j'utilise le terme de correction. Je suis pas thérapeute, je suis architecte à la base, quand même.
Mm-hmm.
Même si j'ai beaucoup d'années d'expérience dans le domaine de la bioénergie. Mais je vais... je fais pas du suivi pour les gens, mais je fais quand même des corrections qui permettent aux gens un petit peu de bien voir comment ils réagissent à certaines choses, de comprendre quel est leur système de croyance qui bloque leur énergie, parce qu'on peut l'observer en direct, ça c'est bien, et puis rétablir un peu ce que j'appelle le centrage. Et l'alignement. Peut-être qu'on pourra en reparler après. Disons que ça, c'est des aspects importants que les machines mesurent et que j'essaye de rétablir. Alors après, une fois que c'est rétabli, on peut remesurer avec les machines pour vérifier ce qui a été corrigé. Ça peut être juste un organe, une dent. Donc on l'observe. Alors après, le seul suivi que je fais, c'est les gens qui reviennent régulièrement pour voir si ça a tenu, qu'est-ce qui a tenu, qu'est-ce qui a pas tenu, voilà. Alors ça c'est pour moi, hein. Et puis les machines en elles-mêmes, donc elles ne font pas de soins, mais il existe des machines qui en fait utilisent les informations qu'elles ont captées, qu'elles renvoient dans le corps sous une autre forme, souvent par déphasage ou fréquence inverse ou enfin voilà, pour en fait faire des traitements. Mais moi, j'utilise pas ces machines parce que je trouve que quand une machine, bon, qu'elle capte l'information, c'est une chose, ça reste toujours une probabilité. Et donc après, elle soigne. Donc ça reste une probabilité de soin, bien sûr, hein, ça c'est clair. Mais surtout, ce qui me dérange, c'est que se faire soigner par une machine, je trouve pas ça vraiment. Moi, ça m'intéresse
oui,
pas trop.
Tout à fait.
Être soigné par la machine. Enfin, moi, j'aime bien le contact quand même. Et je trouve que de se faire guérir à son insu, c'est pas. Enfin, je trouve pas que c'est une démarche juste, quoi. Mais bon, c'est personnel. Il y a des gens qui se font soigner par ces machines. Voilà, quoi.
Mais ça fonctionne.
C'est ce qu'on appelle la médecine quantique. Hein. C'est un petit peu ce qui commence à devenir un peu à la mode.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'on arrive à soigner justement avec tout ça ? En général, il y a quelque chose de plus qui revient ou pas ?
Moi, je vois des centaines de personnes chaque année, donc j'ai vraiment de tout. Hein. Ça va de maladies psychiques, de schizophrènes, de gens qui ont des cancers, de gens qui ont juste le vague à l'âme, ou des gens qui sont fatigués, ou vraiment même des fois des blessures. Enfin, c'est très vaste, quoi. Moi, je suis pas spécialiste dans un domaine de thérapie. C'est vraiment comme je touche à la fois le physique, l'énergétique, l'émotionnel et le mental. Donc j'ai un peu un public qui est très large, quoi. Même les enfants, je fais même les bébés. Enfin, c'est intéressant d'ailleurs les bébés, parce qu'on voit bien comment on peut les mesurer aussi, hein, pas de problème. Et des fois c'est pas évident, quoi, ça c'est sûr. Mais c'est intéressant de voir, parce que les machines permettent, en mesurant toute une famille, de voir en fait tous les liens énergétiques. Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Qui réagit comment par rapport à l'autre? On peut faire des bilans comparatifs entre les gens, de voir là où ça coince, qu'est-ce qui est à régler. Donc c'est intéressant pour qu'une famille puisse évoluer et... on peut faire ce genre de choses aussi. Donc là, on est plus dans un travail psychologique, hein.
Oui, tout à fait. Et je suppose, vous parlez des bébés, justement, les bébés sont plus réceptifs à tout ça, ou ils dégagent peut-être plus d'énergie qu'on ne le pense.
Oui, alors les bébés, c'est toujours très élevé au niveau énergétique, ça j'ai pu le constater aussi. J'ai un peu des statistiques à part pour les enfants, parce que sinon, ça joue plus avec les statistiques de la population, quoi. De manière générale, je trouve que le niveau énergétique global de la population n'est pas très élevé. C'est plutôt très moyen, quoi. Les bébés, c'est déjà beaucoup plus que la moyenne de la population. Et les machines mesurent les niveaux énergétiques, hein. Donc on peut comparer les gens. J'ai fait des statistiques sur des centaines de personnes. Donc les bébés, évidemment, ça sort du lot. Par contre, ce qui est intéressant avec les enfants, je dirais jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est qu'ils font vraiment le miroir des parents. Et donc, souvent, quand on a les images des auras ou des chakras, et qu'on les superpose, on a un effet miroir. C'est-à-dire soit totalement superposé, soit totalement opposé. Donc, et ça, on sait que nos enfants font un peu le miroir de nos problèmes, quoi. Donc, ça, c'est ce qu'on dit. Mais les machines permettent de le voir. Ça, c'est intéressant. Donc, on n'est plus dans de la psychologie, on est dans une réalité quantique.
Ouais. Ok. Et justement, vous parlez de statistiques, est-ce qu'il y a des... Enfin, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le faire, mais est-ce qu'il y a des pays ou des endroits qui sont plus élevés d'un niveau énergétique que d'autres?
Oui, alors, bah oui, ça c'est clair qu'il y a des différences entre les endroits. Ça c'est même certain. Donc, mais il y a aussi la réceptivité de la personne. C'est-à-dire qu'une personne qui ne ressent pas beaucoup de choses... Si elle est dans un endroit où il y a une certaine énergie, comme c'est quand même une information un peu subtile, elle risque de ne pas capter vraiment. Tandis que quelqu'un qui a, disons, une conscience plus élargie et qui a, disons, aussi un bon ressenti de son corps, ça veut dire en gros, n'est pas uniquement dans une projection à l'extérieur à travers son cerveau gauche, mais va être sensible à tout ce qui se passe dans son corps à travers le cerveau droit, donc un lien cerveau gauche-cerveau droit, à ce moment-là, cette personne, elle bénéficiera beaucoup plus du lieu. Ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, il y a des gens qui sont, par exemple, qui ont des problèmes au niveau des jambes, ou des varices, ou des choses comme ça. Alors, il est clair que dans des lieux qui ont une bonne énergie qui vient de la Terre, ils vont pas être bien, parce que cette énergie va renforcer leurs problèmes et puis l'accentuer. Donc, c'est pas bon. Vous voyez, en fait, ils vont être mal. Ils vont dire, oh là là, j'ai les jambes lourdes, ça va pas, je me sens pas bien, et puis ils vont partir. Donc, se dire si le lieu est meilleur qu'un autre, ça dépend aussi beaucoup de la personne qui est sur le lieu. À l'inverse, si la personne est là, disons, des problèmes au niveau de la tête, il est clair, ou des problèmes au niveau du mental, dans les lieux qui, justement, servent à utiliser certaines capacités, non seulement elle pourra pas les utiliser, mais peut-être ça peut même être risqué à un moment donné. Comme on dit, on pète les plombs, parce que évidemment, voilà, l'énergie est très trop forte, quoi. Donc la quantité d'énergie, c'est pas le plus important dans un lieu, c'est plutôt le parce qu'après ça fait quel est le lieu le plus fort, quel est le lieu qui... Alors moi, j'entre pas en matière dans ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas. Par contre, chaque lieu a un potentiel, peut amener quelque chose à quelqu'un, mais évidemment ce qu'il amène à un va peut-être pas amener à l'autre. Donc c'est pas parce que le lieu a guéri 3 personnes pour de la rate que tous les gens qui ont des problèmes de rate vont guérir, quoi.
Ok. Eh bien, avant d'entamer, d'aller plus loin, on va faire une petite pause musicale pour aérer un peu notre esprit. On se retrouve dans quelques petits instants avec notre invité de ce soir, Stéphane Cardino.
Enquête spirituelle. Amy, Thomas et Laurent enquêtent tous les mercredis soirs en direct de 20h à 22h. Enquête spirituelle.
De retour dans cette émission Enquête spirituelle ce soir avec Amy et Thomas et notre invité Stéphane Cardino qui nous parle ce soir de la bioénergie, et on va parler un peu plus maintenant, c'est du centrage des énergies, c'est bien ça, hein.
Voilà. Donc, certaines machines permettent de mesurer aussi les chakras. Voilà. Donc, pas les chakras dans le sens ésotérique du terme, puisque ces machines mesurent bien des phénomènes physiques. Mais c'est vrai que, bon, comme j'observe les chakras en tant que clairvoyant, j'ai vu que des fois, il y avait des chakras qui étaient un peu perturbés, ou qui étaient trop petits, ou qui étaient décalés. Et donc, la tradition en parle de tout ça. Voilà. Il y a quand même pas mal de clairvoyants qui utilisent leurs dons pour pouvoir en fait faire des corrections sur les chakras. Là, ce que j'ai pu faire, c'est à travers quand même des centaines de personnes où j'essaie, à la fois j'ai regardé ce qui se passait au niveau des chakras et puis les comparer avec les mesures prises avec les machines. Et on voit que, bien sûr, ça n'exprime pas tout à fait la même chose, évidemment, mais au final, quand même, on peut dire qu'il y a des corrélations qui sont très très nettes entre les deux, quoi. Donc, au point que maintenant j'ai un petit peu arrêté de mesurer les chakras en les observant ou en les mesurant avec les mains, parce que j'ai trouvé que les machines étaient devenues quand même assez performantes dans ce domaine-là. Et donc, alors on va observer différents phénomènes. La machine va le résumer sous la forme d'une représentation des chakras, mais on va dire un diagramme qui va montrer des décalages gauche-droite. Et donc on va appeler ça des déséquilibres, et donc l'objectif est d'être aligné, c'est-à-dire d'avoir que l'énergie circule dans le corps verticalement sans faire des zigzags partout.
Ouais, tout à fait.
En fait, pourquoi l'énergie fait des zigzags? Elle évite les zones qui vont pas. Alors, si vous avez des problèmes d'estomac, ça évite la zone d'estomac. Si vous êtes en colère, ça évite la zone du foie. Donc au bout d'un moment, vous avez l'énergie qui circule plus entre le haut et le bas d'une manière rectiligne, mais qui va faire des virages. Alors, gauche-droite ou avant-arrière. Évidemment, ça peut bloquer dans la colonne, passer sur l'avant, contourner le cœur, passer sur l'arrière, voilà. Donc, on a en fait une vue 3D de comment l'énergie circule dans le corps. Et on sait traditionnellement que certains organes sont liés, ou certaines glandes sont liées à certains chakras. Donc à partir de là, en fonction de la quantité d'énergie dans chaque organe, on va déterminer en gros la quantité d'énergie dans chaque chakra. Donc ça donne deux paramètres, il y a les décalages et puis la quantité d'énergie. Donc en gros, s'il y a beaucoup de décalages, c'est que vous n'êtes pas aligné. Et si vous avez des chakras qui ont tout d'un coup beaucoup d'énergie, le suivant en a très peu, vous avez des blocages sur les chakras, alors vous n'êtes pas fluide. Donc c'est la fluidité. Donc on a deux paramètres, l'alignement et la fluidité. Donc le but souvent des thérapies est d'être plus aligné et plus fluide. Donc l'énergie circule mieux. Souvent, ce que j'observe, c'est que même si c'est pas la thérapie qui guérit ou le médicament qui guérit, mais ça offre la possibilité au corps de pouvoir entamer un processus de guérison. Donc souvent, si la personne n'est pas du tout alignée, ça va être beaucoup plus difficile. Donc il y a un peu des étapes à travers cet alignement. Un peu, c'est comme un tuyau, hein, un tuyau. Dans le tuyau, vous avez des cailloux un peu partout. Il faut d'abord enlever les cailloux. Donc ça, c'est des charges que l'on enlève, parce que s'il y a des cailloux dans le tuyau, ça circule mal. Après, vous avez le tuyau qui fait des tas de coudes. Quand vous avez des coudes, vous avez des pertes de charge. Alors, évidemment qu'après, en haut, ben, vous avez moins d'énergie qui sort, vu qu'il y a plein de coudes. Donc il faut redresser le tuyau. Et puis, la dernière étape, c'est l'élargir. Et en l'élargissant, vous augmentez le débit d'énergie à l'intérieur. Voilà, donc on peut qualifier un peu les chakras de tuyauterie énergétique, quoi. Mais si on a dans l'esprit que c'est de la tuyauterie, tous les problèmes qu'on peut avoir dans une tuyauterie, vous avez les fuites aussi, qu'on voit très bien avec les machines. Donc tout d'un coup, il y a un trou à un endroit, et puis l'eau sort par ce trou. L'eau qui sort par ce trou, c'est de l'énergie que vous n'avez pas à disposition après, quoi. Voilà.
Ok.
Donc, trois éléments, l'alignement dans les deux directions, voilà, et puis une troisième direction qui est le centrage, donc ça veut dire aligner dans les trois directions, et une fois que c'est bon, vous gagnez en fluidité, et donc votre niveau énergétique augmente. quand votre énergie est plus grande, en fait, vous prenez pleinement votre place. Et puis tous les gens qui se plaignent de se faire bouffer par les autres, comme on dit, dérangés par des énergies négatives du sous-sol, des ondes électromagnétiques, en fait, quand vous avez assez d'énergie, vous n'avez plus vraiment ces problèmes-là, quoi. C'est soit un manque d'énergie qui est à l'origine. Voilà, donc ça, c'était pour l'aspect de centrage, alignement et fluidité. Et puis, j'ai eu la chance de travailler avec un certain nombre de thérapeutes, de toutes sortes, hein, aussi bien ostéopathes que magnétiseurs, que des gens qui travaillaient avec des musiques ou avec des thérapies par les sons, enfin plein de choses différentes, acupuncture aussi. Et donc, j'ai pu mesurer plusieurs centaines de personnes avant la thérapie et après la thérapie. Alors là aussi, c'est très intéressant de voir comment les gens réagissent. Et donc, on a défini un certain nombre de paramètres. Par exemple, vous avez les gens qui partent en réactivité. Donc, ça fait à l'opposé. Donc, ça, vraiment, c'est pas l'idéal. Parce que quand il y a un truc qui va pas, alors ils font l'inverse. Mais l'inverse, c'est pas mieux que ce qui était avant. Ils font juste l'opposé. Il y a des gens qui partent en résistance. Ça veut dire qu'ils n'acceptent pas. En fait, ils ne veulent pas te guérir quelque part, consciemment ou inconsciemment. Et donc, il y a une résistance qui se passe. C'est un peu comme une résistance électrique dans le corps. Alors, ça se met à chauffer. Les gens deviennent tout rouges. Ils bougent dans tous les sens. Enfin, c'est souvent le signe qu'il y a une réactivité du corps. Et donc, que l'information n'a pas bien passé. Donc, ça, c'est pas l'idéal non plus. Et puis, la troisième option, c'est en alignement. C'est-à-dire que, finalement, la personne se réaligne, se recentre. Et là, on voit que le profil évolue. Donc ça, c'est la meilleure des solutions. Enfin, la meilleure, c'est quand on est en alignement total à la fin, mais ça, on ne l'obtient pas souvent. C'est souvent en cours d'alignement, et après, quand on mesure dans les jours suivants ou les mois d'après, on voit que cet alignement continue à opérer et continue à se centrer encore davantage. Et puis, c'est là qu'on obtient les meilleurs résultats. En fait, j'ai remarqué que... la thérapie, au final, parce que j'ai mesuré plein de thérapies différentes, j'ai vu que le résultat de la thérapie dépendait beaucoup de la personne, de comment elle réagissait, et de la relation entre ces personnes, entre le patient et le thérapeute. Donc la méthode avait un peu moins d'importance, enfin, un petit peu ce que j'observais, quoi.
Ouais, c'est une question de confiance aussi, je pense.
Ouais, la confiance est très très importante, quoi. Parce que s'il n'y a pas de confiance avec le thérapeute, les gens, généralement, ils font un blocage, comme on dit, hein. Donc en fait, ils font de la résistance. Ils font de la résistance. Alors après, ils disent, oh, mais ça marche pas, il m'a pas soigné, alors il va en voir un autre. Et puis, ils font de ce qu'on appelle chez nous tourisme thérapeutique. Donc ils vont voir plein de personnes différentes. Mais en fait, le thérapeute ne pourra jamais rien faire, parce que la personne, consciemment ou inconsciemment, ne veut pas être guérie. Donc, il y en a quand même pas mal comme ça.
Ouais, j'imagine. On va marquer, avant de poursuivre, une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques petites minutes. A tout de suite, chers auditeurs.
Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Découvrez tous les sujets pour ouvrir votre spiritualité. Faites-vous votre propre avis. Nous laissons la parole à nos invités.
Ça y est, on a l'antenne. Tout le monde m'entend? Je m'entends pas, j'ai pas mis le casque. Non, mais passons, on entend ici, hein, pas besoin de casque. Eh bien, nous sommes de retour pour la dernière ligne droite d'enquête spirituelle. Laurent ne veut plus parler, il trouve que je m'endors. C'est faux d'ailleurs, je suis là, je suis présent, j'écoute. Et nous sommes toujours avec notre invité qui est de Suisse et qui va nous parler maintenant. Laurent, tu as...
enchaîné sur la géobiologie.
La géobiologie. Eh bien, nous écoutons Monsieur Stéphane.
Alors, concernant la géobiologie, oui. Ma particularité est de ne pas utiliser forcément les baguettes et les pendules, quoi, les outils habituels de détection de la géobiologie.
Comment faites-vous ?
Donc, et d'utiliser en fait le corps humain comme système de détection, donc comme capteur d'information. Et pour ça, j'utilise en fait les mains. Voilà. Et les mains qui vont mesurer ce dont on a parlé un peu avant avec la question de l'alignement et du centrage et de la fluidité énergétique. Donc, parce qu'en fait, le corps humain a un système d'axes énergétiques qui sont... c'est des phénomènes physiques, on n'est pas dans quelque chose qui est ésotérique. On va dire grossièrement que c'est lié à des ondes stationnaires, c'est lié à l'ADN et à l'eau, en fait l'eau qui émet des vibrations, et ces vibrations vont sortir du corps et donc créer un système d'ondes stationnaires. Et puis alors, quand on se déplace dans des lieux, ou juste quand on stationne dans un endroit précis, on a nos cellules qui vont capter l'information du lieu et vont modifier en fait les ondes stationnaires émises par le corps. Donc on aura deux phénomènes principaux. Le premier phénomène, c'est ce que j'appelle la déflexion du champ vital, c'est-à-dire qu'il va opérer une translation sur la gauche. Ça arrive des fois sur la droite, mais généralement, ça part sur la gauche. Voilà. Et donc, si le sous-sol est perturbé par des failles ou des courants d'eau ou des présences de canalisation et autres, donc tout ce qui fait que le sol n'est pas homogène, l'information, le signal qui va sortir du sol, non seulement du point de vue du géomagnétique, donc quand on mesure avec un appareil, avec un géomagnétomètre, on va voir qu'il y a une perturbation du sous-sol, c'est-à-dire que la variation magnétique locale va être soit un peu plus élevée, soit un peu plus basse. Pour les failles, c'est plus élevé, pour l'eau, c'est un peu plus bas. Donc, cette variation locale du champ magnétique terrestre aura une incidence sur les personnes qui sont à la surface. Et donc, ce champ d'énergie va, lorsque le signal est perturbé, c'est-à-dire que la zone, elle est considérée pas bonne pour le corps humain, il va se décaler sur la gauche. Et donc, on va mesurer avec les mains de voir comment l'onde stationnaire s'est décalée sur la gauche. On peut aussi utiliser un petit diapason. Celui que j'utilise s'appelle la sonotest, mais vous pouvez le faire avec aussi un diapason. Et quand vous déplacez le diapason devant vous, vous allez entendre qu'à un moment donné, le son va passer d'une oreille à l'autre quand vous allez traverser en fait l'axe. Et là, vous pouvez mesurer par vous-même, observer physiquement, hein, et en l'entendant avec vos propres oreilles, que votre champ d'énergie s'est légèrement décalé sur la gauche. Donc là, ça veut dire, dans tous les cas, que l'endroit, il n'est pas bon. Voilà. Alors, les phénomènes du sous-sol venant plutôt par en bas, il y a une tendance à décaler un petit peu plus au niveau des pieds qu'au niveau de la tête. Donc ça, c'est la perturbation des cellules. L'autre phénomène va être lié aux longueurs d'onde, mais aussi à la perturbation. Ça veut dire que, j'en ai déjà parlé au tout début, que si le lieu émet dans des couleurs qui sont rouges, il y a une tendance à s'ancrer davantage. Et donc, l'ensemble du champ d'énergie va opérer une descente vers le bas. Donc, il va lentement, l'axe énergétique va descendre, et au lieu d'être comme il doit être sur le nombril, il va descendre un petit peu plus bas que le nombril. Ça, c'est à cause de la couleur. Maintenant, dans les lieux qui sont très positifs, avec des vibrations élevées, c'est-à-dire dans ce qu'on va appeler dans des couleurs qui sont dans les gammes du haut du spectre, eh bien, il y aura une action plus spécifique sur la tête, et votre champ d'énergie va monter. Alors, dans le premier cas, avec les perturbations du sous-sol, vous aurez le sentiment d'être très lourd. En fait, vous n'êtes pas plus lourd, vous pesez la même chose. Hein. Mm-hmm. Donc, mais c'est la sensation d'être plus lourd. Et puis, quand le lieu est agréable, la sensation d'être plus léger. Voilà. Donc ça, c'est une action une fois sur les jambes, le bas du corps, et une fois sur le haut. Quand un lieu est perturbé, le corps est en demande d'énergie. Parce que, comme il est perturbé, ça circule pas assez bien. Alors, en fait, il y a, si vous voulez, le premier chakra qui va s'ancrer davantage dans la terre pour pouvoir capter de l'énergie. Et donc, votre champ d'énergie va descendre. Alors, comment est-ce qu'on pratique ? Eh bien, on peut se déplacer dans le terrain, simplement en ressentant ses axes. Et donc, ça, c'est ce que je fais, disons, quand même assez régulièrement. Je fais beaucoup d'analyses de terrain pour des architectes. Et donc, je me déplace dans le terrain. Et dès que le plan horizontale descend, c'est-à-dire qu'on se sent plus lourd, ça veut dire qu'on a affaire à des perturbations du sous-sol. Donc voilà, alors ça me permet de donner les informations aux architectes sur la nature du sous-sol. Mais c'est précis, hein, jusqu'à des fois 50 cm, voire même 10 cm près, la position des conduites, des blocs erratiques dans le sol, la position de la nappe phréatique, le niveau de la nappe phréatique, les courants d'eau, tous les phénomènes géologiques, c'est-à-dire chaque fois que la roche s'est fracturée dans le sol, où elle s'est fracturée, comment elle s'est fracturée, enfin tout ça peut être déterminé de cette manière-là. Okay. Donc c'est une méthode biophysique. Donc on n'est plus dans la radiesthésie, on est dans une méthode biophysique qui permet de, sans outil autre que le corps humain, de définir absolument tout ce qu'il y a dans le sous-sol. Voilà, ça c'est un peu le... Voilà, c'est comme ça que je pratique la géologie et c'est comme ça que je l'enseigne depuis déjà à peu près 14 ans, 15 ans en gros.
Ok, et qu'est-ce qui est à éviter quand on travaille dans la géobiologie? Il y a sûrement des choses qui sont évitées, par exemple pour une maison ou une habitation.
Voilà, moi je travaille surtout en amont avec les architectes, donc j'ai déjà effectué plus de 500 expertises, beaucoup dans des maisons qui avaient des problèmes, des gens qui dormaient mal et tout ça. Mais c'est vrai que maintenant je me concentre un petit peu plus avec les architectes, parce que une maison, on peut la faire très belle, spacieuse, lumineuse, avec des bons matériaux et tout ce que vous voulez. Mais si elle est sur un terrain qui est pourri, l'énergie sera pourrie, quoi. Voyez, donc c'est quand même assez dépendant de la nature du sous-sol. Donc je préfère plutôt analyser le terrain. Après, bah tant mieux si la maison elle est bien. Mais je dirais que le terrain a quand même une grande importance. Donc les choses à éviter, ce sont justement chaque fois que vous avez des variations de champ magnétique. Donc en gros, les passages d'eau dans le sol naturels. Bon, les conduites des fois aussi un peu, mais surtout l'eau qui circule à différentes profondeurs dans le sol. Voilà. Et puis également les failles. Et les failles, c'est soit que la roche est fracturée. Donc il y aura des fractures dans les différentes directions. Et puis ces zones-là sont également évitées. Donc déjà, moi, c'est les deux principales. On dit tout l'eau et les failles, quoi. Voilà. Ça, je pense que, bien entendu, après, vous avez des informations qui sont liées à ce qui s'est passé dans le terrain, quoi. Donc il est clair que d'être sur une ancienne décharge, un ancien cimetière, des anciens abattoirs, pour en avoir mesuré, je peux vous dire que c'est pas terrible non plus, quoi. Voilà.
Ok. Et par exemple, est-ce que des lignes haute tension ou des lignes électriques qui passent à côté d'une maison ou au-dessus d'une maison est aussi important d'un point de vue géobiologique?
Voilà. Bon, il y a une manière de calculer, en gros. Ben, c'est vrai que quand on est sous une ligne de haute tension, on voit bien qu'on a des décalages, qu'on n'est plus du tout aligné et plus du tout centré. Mais il faut vraiment un peu passer sur la ligne pour s'en rendre compte. Dès qu'on s'éloigne de plusieurs dizaines de mètres, déjà le phénomène y disparaît. Moi, bon, j'établis un petit peu des normes, hein. C'est, vous prenez la valeur de la ligne en kilovolts. Donc je sais pas si combien c'est en Belgique. Chez nous, on a par exemple du 240 kilovolts. Donc à 240 mètres, il n'y a plus rien, quoi. À 120 mètres, on peut déjà dire qu'on peut mesurer quelque chose. Alors, pas d'incidence particulière, mais c'est mesurable. Donc c'est pas nul, mais il y a quelque chose. À 60 mètres, vous commencez à rentrer dans une zone où le bien-être commence à devenir, pour les gens sensibles, ils vont dire, oui, je sens quand même que c'est pas agréable. Il y a comme l'électricité dans l'air, une pression sur la tête, sur les tempes. Et puis, quand on va arriver à 30 mètres, alors là, on commence à avoir pas mal de personnes qui commencent à avoir des problèmes de santé, à sentir toutes sortes de choses, de bourdonnement, de fatigue et autres. Donc là, on tombe dans un domaine qui est déjà plus du bien-être, mais de la santé, quoi. Okay. Ensuite, la norme est à 18 mètres des fils. Donc, bon, on peut construire carrément sous une ligne, c'est assez haute.
Il y a toujours des possibilités qui sont faisables du moment qu'on puisse analyser la chose. Et c'est là votre métier. Tout à fait. Alors.
Ouais, je vous entends plus très bien là.
Voilà, un petit souci de ligne de téléphone, mais ça tombe bien parce qu'on va faire une petite pause musicale, la dernière de cette émission. On se retrouve après avec notre invité pour clôturer cette émission et également le planning des prochaines émissions et conférences de l'association Enquête Spirituelle. À tout de suite.
Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Le podcast, rendez-vous sur notre site www.enquête-spirituelle.com.
Dernière ligne droite de cette émission Enquête spirituelle ce soir avec notre invité Stéphane Cardino qui nous a parlé bien de plein de bonnes choses bien précises sur la bioénergie et sur également la géobiologie, mais c'était règle générale, on va dire, c'était vite fait. Alors, comment vous contacter? Est-ce que vous faites des formations? Est-ce que vous organisez des stages? Comment vous contacter? Faites un peu votre promo, on va dire.
Voilà. Donc, ça fait déjà pas mal d'années que j'enseigne. Donc, entre 12 ans et 15 ans, ça dépend un petit peu des matières. Donc, j'enseigne principalement tout ce qui est de la géobiologie et de la bioénergie. Donc, ça, c'est les deux grandes voies principales. Donc, voilà. Bon, tous les stages sont en Suisse, malheureusement. Je l'ai fait l'année passée en Belgique, mais là, bon, ça sera pratiquement tout est en Suisse. Donc, il y a des possibilités de venir pour faire des formations pendant une semaine complète. Donc, ça, c'est l'avantage, c'est qu'en faisant des semaines complètes, on avance quand même assez bien. Voilà. J'ai pas mal de Belges à mes stages, quand même, aussi.
Il faut pas dire, très loin.
Environ 10%. Donc, voilà. Et tout se trouve sur mon site internet, donc www.geniedulieu.ch, génie du lieu, tout appendu, sans accent. Voilà, geniedulieu.ch. Et puis là, ben, on trouve toutes les informations sur l'ensemble de mes activités, sur les voyages aussi. J'organise des voyages sur des sites sacrés. Il y a l'Écosse, il y a l'Alsace, voilà. Et puis l'ensemble des formations. Il y a aussi bon tout ce qui concerne les expertises et puis il y a des dossiers. Il y a un certain nombre de dossiers sur des sujets divers, entre autres justement sur la bioénergie, un petit peu sur ce qu'on a parlé avec la mesure des axes de tout ça. Voilà, tout ça c'est sur mon site.
Ok, donc on rappelle geniedulieu.ch. Et vous avez aussi, donc, vous l'avez parlé tout à l'heure au début de l'émission, un nouveau livre qui va sortir, tout
oui.
à fait.
Voilà. Donc c'est tout frais, parce que normalement il devait être sorti la semaine passée, mais visiblement ça traîne un peu pour la distribution. Donc mon dernier livre, donc le quatrième, sur justement les machines quantiques. En gros, c'est tout ce qui concerne l'aura électromagnétique et l'aura énergétique. Donc il y a plein de dessins par clairvoyance, du corps astral, du corps énergétique, du corps mental, enfin tout ça. Il y a plein d'informations sur tous les liens entre les organes, les chakras, les dents, enfin tout ça, voilà. Et puis des exemples aussi de mesures dans des lieux, dans des chapelles initiatiques, dans des églises, dans des expériences faites en thérapie, etc. Donc plein d'expériences partagées et mesurées, et à chaque fois avec des images fournies par des machines et des dessins que j'ai fait moi-même par clairvoyance.
Okay, donc,
voilà.
Ça s'appelle...
donc le livre s'intitule Science et conscience de l'invisible. Et c'est aux éditions Trajectoire. Voilà, ça sort ces jours.
Mais on peut le trouver déjà sur,
voilà,
sur Internet, on peut déjà le trouver, je vous le confirme. Je viens de le chercher à l'instant en vitesse,
oui,
on peut déjà le trouver.
On peut déjà le commander en tout cas. Je ne sais pas si on peut le recevoir, mais en tout cas, on peut le commander sur Internet, il n'y a pas de problème. Voilà.
Voilà, comme ça on a fait toutes vos informations. Donc je rappelle une fois votre site geniedulieu.ch. Merci beaucoup. D'avoir été notre invité ce soir, nous avoir éclairé là-dessus. J'espère qu'on aura égayé la curiosité de nos auditeurs. En tout cas, on mettra le lien également sur notre site internet.
C'est déjà fait.
Voilà, ben c'est déjà fait.
Merveilleux, Émile. Merveilleuse, Émile. Science.
Et donc, on rappelle votre dernier livre, Science et conscience de l'invisible, qui sera disponible très prochainement. Merci encore. On vous souhaite une excellente soirée.
Merci et bonne soirée.
Avec plaisir.
Merci, au plaisir, au revoir.
On vous dit à bientôt. Alors, quant à nous, le programme de l'émission pour les semaines à venir.
Alors, mercredi prochain, nous recevrons des personnes en studio et certainement également par téléphone, donc pour témoigner de signes de l'au-delà, avec donc notamment des enfants qu'ils auraient perdus. Donc voilà, ce sont des parents que nous allons recevoir.
Et si vous aussi vous avez des signes de l'au-delà, quels qu'ils soient, eh bien soyez des nôtres aussi.
Voilà, vous pourrez partager vos témoignages avec nous par téléphone. Et le mercredi 6 juin, nous recevons Olivier Carré.
Il viendra parler de Yi Qing, de l'astrologie chinoise et de tout ce qu'il sait très bien faire. Qui avait fait d'ailleurs une démonstration l'année dernière de Yi Qing.
Ah oui, c'était impressionnant. Studio,
donc on aura peut-être l'occasion d'en avoir une si vous suivez, si vous êtes sage. Mmh. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et ensuite, on partira du 10 juin, donc c'est le dimanche 10 juin.
Tout à fait, ce sera la conférence avec Umberto Molinaro sur les crop circles.
Il va être très intéressante. Notre invité de ce soir a bien confirmé qu'il y avait des énergies dedans qui étaient mesurées avec des machines. Donc si vous intéressez à tout ça, si vous voulez en savoir plus, ce sera avec Umberto Molinaro qui est enquêteur depuis plus de 20 ans, 25 ans même je crois, dans tout ce qui est crop circles. Donc le dimanche 10 juin à Frasnes, à la salle Magritte, juste derrière la maison communale. C'est très simple à trouver, il y a un grand parking. Ça c'est pour la conférence et les prochaines émissions. Eh bien merci à Amy, merci à Thomas.
Et merci, bonne soirée.
On se retrouve la semaine prochaine.
Thomas un peu endormi, mais il sera réveillé dans pas longtemps.
Voilà, il commence.
On dira ça comme ça.
Merci beaucoup. C'est une excellente soirée.
Excellente soirée. Bonne soirée. Bisous à vous tous.
Bye. Ciao, bye. Bye.